Dateline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des Témoins de l'Invisible, émission présentée chaque semaine durant les vacances par votre serviteur Christophe Jubien, mon interlocuteur Joël Ménard, directeur, ancien directeur de publication de la revue Lumière dans la nuit, ufologue depuis bientôt 50 ans, mais aussi spécialiste de l'aéronautique et auteur de 3 ouvrages sur les ovnis, dont le dernier, Les apparitions d'ovnis, publié aux éditions Le Mercure Dauphinois, et on doit absolument l'avoir dans sa bibliothèque si on s'intéresse au sujet. Depuis le mois de septembre dernier, Joël Ménard nous parle de l'histoire des phénomènes ovnis, sans extrapoler d'ailleurs sur la possible origine du phénomène ou sa nature, uniquement sur les faits. Nous en étions la semaine dernière à évoquer la question de la commission d'enquête Signe, qui avait été confiée en 1946 au général Twining. Cette commission d'enquête sur les ovnis, eh bien, avait conclu en disant que ces ovnis n'étaient pas des canulars, une invention des témoins, qu'ils étaient probablement d'origine exotique. Oui, l'hypothèse extraterrestre avait été retenue par le rapport signé par Nathan Twining, qui avait remis son rapport au général Vandenberg. Quelle a été la réaction de celui-ci? Voyons cela avec Joël Ménard.
Vandenberg, le jeune et brillant général fumeur de gros cigares, n'était pas content parce que il avait réussi à maîtriser le problème, mais la balle était quand même passée un petit peu près de sa tête. Apparemment, c'est ce qui résulte de tous les documents auxquels on peut avoir accès aujourd'hui, il avait de très bonnes raisons de ne pas vouloir que l'existence des disques volants soit reconnue et attribuée à une cause extraterrestre. C'était une idée qu'il ne pouvait pas supporter.
Quelle bonne raison était-elle ?
Alors, là, on entre dans le domaine des spéculations. C'est ce qu'il faut éviter de faire, mais c'est difficile d'éviter de se poser cette question-là. On peut penser qu'il voulait surtout pas d'une panique. Il y avait de grosses raisons de penser que si l'US Air Force admettait l'existence des ovnis, et on n'appelait pas ça des ovnis, on appelait ça des disques volants, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Si l'US Air Force admettait l'existence des disques volants et disait clairement que leur origine n'était pas terrestre, ça risquait, et là on peut le comprendre, ça risquait d'engendrer une panique considérable. Moi, personnellement, j'ai l'impression que à partir des éléments dont j'ai connaissance, j'ai plutôt de la sympathie pour Vandenberg. Je crois qu'il a menti, étant donné l'importance du dossier qu'il avait entre les mains, et la force des arguments développés par les gens du projet Sign, qui avaient tous les documents nécessaires à leur disposition, je crois qu'il a caché la vérité, probablement pour éviter une panique généralisée. Si c'est le cas, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Alors évidemment, on est quelques décennies plus tard, l'idée de panique résultant de la révélation de l'existence des ovnis et de leur origine non humaine, elle est passée un petit peu au second plan, tant mieux, pourvu que ça dure. Mais à l'époque, il y avait principalement aux États-Unis, peut-être aussi ailleurs, mais surtout aux États-Unis, il y avait des tensions considérables, parce que tout ça était nouveau, que ça surgissait dans un contexte tendu, puisque c'était 2 ans après Hiroshima et Nagasaki, et c'était au moment où la guerre froide était en train de prendre naissance. Donc, c'était quand même un contexte pour le moins inquiétant. Et en plus, voilà que se manifestaient dans le ciel des objets qui, si on était bien documenté à leur sujet, ne venaient probablement pas de chez nous. Et ne venaient pas non plus d'une autre nation terrestre. Donc, tout ça était de nature à faire naître une panique, peut-être même une méga panique, une angoisse généralisée qui aurait pu avoir des conséquences dévastatrices.
Surtout qu'on était en pleine guerre froide.
C'était le début.
C'était le début, je... ouais.
C'était le début, mais ça commençait très fort quand même. Donc, voilà l'histoire de l'estimation de la situation rejeté par le général Vandenberg, à la lumière de documents qui ont été publiés plus récemment, on peut croire que le général Vandenberg en savait sans doute depuis pas mal de temps, très long sur la question, et qu'il avait... Ça, je ne voudrais pas être chargé de le prouver, hein. Ça n'est qu'une pression. Il savait sans doute ce qu'il en était, mais ne voulait pas l'admettre publiquement pour ne pas affoler la population. Tout ça, en tout cas, ça s'articule étrangement avec l'affaire de Roswell. Si l'affaire de Roswell s'est bien déroulée comme on le pense actuellement, et comme de très nombreux, très sérieux chercheurs américains l'ont écrit, il est hautement probable, il est plus que hautement probable, que le général Vandenberg était au courant. Donc, le scénario qui se dessine, mais qui n'est qu'un scénario, hein, soyons honnêtes, c'est pas prouvé à 100%. Néanmoins, ce scénario, c'est que Vandenberg, et combien d'autres, et peut-être jusqu'au président lui-même, était au courant depuis le tout début du mois de juillet 47 que les disques volants étaient bel et bien d'origine non terrestre et qu'il y avait des petits bonshommes à l'intérieur, et il n'a pas voulu admettre publiquement. C'était même pas une question d'admettre la chose publiquement. Il n'était pas question, j'imagine, de rendre public l'estimation de la situation. Mais même à usage intérieur, à usage interne de l'US Air Force, il n'était apparemment pas question d'admettre qu'on en était là. Et ça, c'était en 47-48, et nous sommes en 2018, et la situation a beaucoup évolué, elle est devenue moins critique, du moins en apparence, mais voilà ce qui apparemment se déroulait à cette époque-là.
Ouais. Alors, on précise quand même que tout dernièrement, il y a une information de taille, puisque le Pentagone a avoué qu'il continuait à étudier les ovnis à travers une commission qui a été dissoute, mais dont les membres viennent de recomposer une association pour continuer d'étudier les ovnis. Et les déclarations sont assez fracassantes sur la réalité du phénomène et son origine exotique. Hein.
Oui, alors c'est une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois, vers la fin de 2017 ou le tout début de 2018. et qui a bien fait rigoler les gens qui s'occupent du problème OVNI depuis longtemps, étant donné que, je le rappelle, le général Twining a rédigé ce mémorandum, le 23 septembre 47, c'est quand même pas récent, dans lequel il disait clairement que le phénomène était réel et absolument pas fictif. Et dans les paragraphes suivants, il exprimait le souhait que ce phénomène fasse l'objet d'études ouvertes et approfondies. Donc, si on apprend aujourd'hui que les autorités américaines s'intéressent à la question, c'est bien, c'est très très bien, mais on le savait déjà en septembre 40, plus exactement, tout le monde ne le savait pas, parce que le mémorandum du général Twining était un document estampillé top secret. Mais il a été révélé dans les années 80, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur la liberté de l'information, la FOIA, Freedom of Information Act. On a eu connaissance, grâce à cette loi sur la divulgation de l'information, de cette lettre du général Twining au général Shulgin. Donc, le fait que les États-Unis s'intéressent à la question, c'est pas vraiment une nouvelle de toute première fraîcheur.
Disons que c'est la première fois que le Pentagone l'avoue officiellement, ce qui n'est pas non plus inintéressant. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant de l'autre commission, celle qui a suivi la commission Signe, qui est la fameuse commission Grudge, ce qui signifie rancœur, je crois, c'est ça ?
Oui, Grudge, c'est rancœur, oui. Alors, il ne faut peut-être pas accorder une signification particulière au choix de ce nom, parce que, apparemment, les noms affectés à des projets d'études officielles sont choisis un petit peu au hasard, et ne sont pas à considérer comme révélateurs de quoi que ce soit. Hein. Dans la sombre histoire de l'étude officielle des ovnis aux États-Unis, il y a des choses comme le projet Snowbird, oiseau de neige, oiseau des neiges. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet qui nous intéresse ? Absolument rien. Hein. Alors, ce projet Grudge, il a été lancé le 16 décembre 48, alors que l'équipe du projet Sign avait été dispersée, ses principaux acteurs étant affectés à d'autres tâches assez loin de Wright-Patterson. C'est la procédure bien connue, hein, quand il y a quelque chose qui gêne, on déplace les gens. Quand il y a quelque part un groupe de personnes qui font trop de bruit, on les mute. Comme ça, ils ne communiquent plus entre eux, et puis on a la paix. Donc, le projet Grudge a été décidé le 16 décembre 48, et il est devenu vraiment opérationnel le 11 février 49. Mais à Wright-Patterson, dans ce qui restait du projet précédent, tout le monde avait compris où était son intérêt. C'était pas bon pour la carrière de reprendre le flambeau de l'estimation de la situation. Étant donné que le grand chef, le général Vandenberg, ne voulait de toute évidence rien entendre à propos d'OVNI d'origine non terrestre, il n'y avait pas trop intérêt à émettre un avis en ce sens-là. Bon, et puis on sait que quand les gens ont compris où est leur intérêt, en général, ils ont tendance à se comporter en conséquence. C'est ce qui fait que, à peu près un an après l'estimation de la situation, je le rappelle, elle date du 5 août 48. Bon, à quelques jours ou quelques semaines près, un an plus tard, donc en 49, pendant l'été 49, les survivants du projet, à Wright-Patterson Air Force Base, ont rédigé un document qui s'appelle Findings of Project Sign, ce que le projet Sign a permis de trouver. Et c'était un document sans grand intérêt. Sans grand intérêt parce que il se bornait à dire le contraire de ce qu'avait dit l'estimation de la situation. Alors, de quoi il était question ? Ben, d'abord, il n'y avait pas de preuve définitive. Ensuite, il existe quantité de phénomènes naturels ou artificiels qui peuvent donner lieu à des confusions. Le témoignage humain est fragile. Les photos, quand on en a, elles sont difficiles à interpréter parce que elles ont été faites de loin et alors on peut pas conclure. Puis, il y a quantité de phénomènes naturels, ne serait-ce que des vols d'oiseaux ou des choses comme ça, ou des objets légers propulsés en altitude par le vent. Tout ça, ça pouvait expliquer les histoires de disques volants. Voilà en gros ce que racontait ce document Findings of Project Sign, c'est-à-dire en fait le contraire de ce qu'avait trouvé le projet Sign. À la fin du mois de décembre 49, le 27 décembre, l'US Air Force a annoncé la fin du projet Grudge. Dans le rapport précédent, il était question d'un certain nombre de dossiers d'observation qui avaient été étudiés, et 78% d'entre eux étaient expliqués. Mais c'est pas tout. Il existait dans le sein du laboratoire aéromédical de l'US Air Force un département de psychologie qui s'est attelé à la question et qui s'est donné pour tâche de tordre le cou aux 22% restants. Alors c'est facile hein, d'expliquer que les témoins de disques volants, comme on disait à l'époque, ça peut être d'abord des farceurs, ça peut être des esprits fatigués, ça peut être des gens qui ont vu ça de nuit, ou dans de mauvaises conditions, où il y avait du brouillard, où ils étaient éblouis, et puis c'était peut-être des gens qui cherchaient à faire parler d'eux, etc., etc. On peut imaginer facilement tout ce qui permet de tourner en ridicule, de réduire à rien les témoignages. Il faut quand même admettre que, en l'absence de preuves flagrantes, on peut effectivement se poser des questions sur la validité des témoignages. Cela dit, y avait-il vraiment absence de preuves flagrantes ? Si les événements de Roswell début juillet 47 s'étaient effectivement déroulés comme on croit le savoir aujourd'hui, il y avait effectivement absence de preuves, mais sans doute pas pour tout le monde. Hein, puisque de très nombreux témoins affirment que des débris, et en plus des débris abondants et inexplicables, ont été recueillis et transportés soit à Wright-Patterson dans l'Ohio, soit à Washington, soit éventuellement ailleurs. Il n'y avait peut-être pas absence de preuves flagrantes pour tout le monde.
Alors, durant les années 48-49, je suppose que les gens continuent d'observer des objets volants non identifiés avec, je suppose aussi, des observations fort étranges.
Oui, ça continue, ça n'arrête pas, mais la fréquence des apparitions est très irrégulière. Dès cette époque-là, apparaît le fait que la fréquence des apparitions fluctue dans le temps, passant par des minima et des maxima, et le phénomène reste actif, mais il y a des moments où il est plus actif qu'un autre. À la fin de l'année 49, l'US Air Force annonce la fin du projet Grudge. Néanmoins, le projet continue, mais à faible régime. Son personnel a été encore diminué. Il n'y a plus qu'un seul enquêteur, le lieutenant Jerry Cummings. Alors, bon, le pauvre homme, je ne sais pas exactement quels étaient ses présupposés en la matière, mais un homme seul pour affronter la tâche des enquêtes sur un territoire comme celui des États-Unis dans une période aussi troublée, il devait avoir du travail, le lieutenant Cummings, s'il prenait son boulot au sérieux. Et à ce moment-là, il s'est produit un événement très intéressant. À Fort Monmouth, dans le New Jersey, dans un établissement du centre du Signal Corps de l'US Army, c'est-à-dire un département de l'US Army spécialisé dans les transmissions. Il y a eu une série d'observations assez importantes qui ont créé un certain émoi. Alors là, c'était plus dans l'US Air Force, c'était dans l'armée. Le lieutenant Cummings a été envoyé, ainsi que le lieutenant-colonel Rosengarten, à Fort Monmouth pour étudier la situation. Le lieutenant-colonel Rosengarten, qui était donc hiérarchiquement le supérieur du lieutenant Cummings, était le chef du département avions et missiles de l'AMC, de l'Air Materiel Command de l'US Air Force. Bon, Cummings et Rosengarten sont donc allés dans le New Jersey. Ils ont enquêté sur ce qui s'était passé. Ils sont revenus et ils ont fait un rapport qu'ils ont envoyé, comme la hiérarchie leur imposait, au major général Cabell. Et ce général Cabell, ainsi que d'autres officiers et des représentants d'un constructeur d'avions bien connu à l'époque, c'était la firme Republic, c'était la société qui fabriquait les F-84 notamment. Tous ces gens-là, Cabell, ses adjoints et les représentants de Republic, se sont plaints de la faible qualité des moyens mis en œuvre pour enquêter. Je ne sais pas si ça a fait plaisir à Cummings et Rosengarten, mais en tout cas, on les a renvoyés à Wright-Patterson avec l'ordre de réorganiser le projet. Alors si on regarde le déroulement des choses à ce stade-là, on constate qu'il y a, comme l'explique notamment Donald Keough dans ses nombreux et remarquables ouvrages, il y a au sein des autorités militaires deux tendances qui s'affrontent. Il y a une tendance qui est représentée par le général Vandenberg et par d'autres, qui consiste à dire les ovnis, on n'a pas de preuves. Tout ça, finalement, si c'était vrai, où sont les preuves? Il n'y en a pas, donc arrêtons de parler de ces choses-là. Il peut s'agir d'erreurs, d'erreurs d'interprétation, d'affabulation, de plaisanterie, de phénomènes naturels. Ah, j'allais oublier les phénomènes naturels. Bon, il y a cette tendance-là, puis il y a une autre tendance qui s'est déjà manifestée par le passé, notamment... c'est celle qui a donné naissance au projet SIGN à la fin 1947. une autre tendance qui est portée par des gens qui veulent vraiment enquêter sur ces choses-là et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Qu'il y ait ou non des preuves vraiment tangibles. D'ailleurs, une preuve tangible n'est pas forcément une preuve tangible pour tout le monde, hein. Voir ce qui peut en être des débris de Roswell. Une preuve, ça peut être tangible pour celui qui la détient. Mais pour ceux qui la détiennent pas, il n'y a pas de preuve, évidemment. Donc ces deux tendances s'affrontent au sein des autorités, jusqu'au niveau gouvernemental. Et il y a comme un mouvement de bascule. Par moments, c'est les tenants du silence qui semblent tenir la barre. Et puis, quand il se produit des événements trop fracassants, comme la suite des événements va le montrer, c'est l'autre tendance qui reprend de l'influence.
La suite de cette histoire passionnante au prochain numéro, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ce sera une nouvelle édition des Témoins de l'Invisible en compagnie de Joël Ménard, ufologue depuis 50 ans, enquêteur de terrain, auteur de 3 ouvrages sur le sujet des ovnis et ancien directeur de publication de la revue Lumière dans la nuit. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Grand-Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.